On va continuer notre étude du 19e siècle, l'Église au 19e siècle. Nous avons vu que l'Église était confrontée avec des forces dont elle ne prenait pas encore la mesure tout à fait, mais qui allaient déployer leur hostilité au christianisme à la fin du siècle et essentiellement pendant le courant de ce siècle-ci. Nous avons vu le positivisme la dernière fois, le darwinisme. Et maintenant, il y a deux autres idéologies qui vont être extrêmement négatives par rapport au christianisme. Le premier, c'est le marxisme. Marx, donc, c'est date 1818-1883. Et je crois qu'il est inutile d'épiloguer sur l'hostilité foncière du marxisme par rapport au christianisme. D'ailleurs, on peut dire que le marxisme est un avatar du catholicisme, n'est-ce pas? C'est une version abâtardie du catholicisme qui considère, n'est-ce pas, qui se veut scientifique d'abord, n'est-ce pas? Bon, d'abord, Marx était un homme qui était un disciple d'Hegel sur le plan philosophique. Hegel est un homme qui a aussi une influence tout à fait négative sur l'histoire de la pensée d'une manière générale, parce qu'il est le premier qui ait cessé de penser en termes de vérité. Jusque maintenant, n'est-ce pas, il y avait cette idée chez tous les philosophes qu'il y avait d'un côté la vérité, de l'autre côté l'erreur. Et le but de la philosophie était d'essayer de découvrir justement ce qu'était la vérité. Bien entendu, sur ce qu'était la vérité elle-même, on était loin d'être d'accord sur le plan philosophique et sur le plan religieux. Mais tout le monde était d'accord, en tout cas, sur le fait qu'il y avait une vérité qu'il fallait essayer de chercher. Et finalement, après des siècles de recherches philosophiques et religieuses, Hegel est arrivé à la conclusion que on n'avait pas beaucoup avancé et qu'il y avait tellement de vérités entre guillemets divergentes, contradictoires, qu'on pouvait se demander même s'il y avait une vérité, si la vérité c'était une notion qui existait. Et Hegel a répondu non. Il n'y a pas de vérité. Et finalement, toute notre philosophie moderne. Et quand je dis philosophie moderne, contemporaine, je dis la philosophie de Monsieur Tout-le-Monde, de l'homme de la rue. Donc, il n'est pas obligatoirement un philosophe de haut niveau. Mais sa pensée profonde est marquée par l'idée que, justement, il n'y a pas de vérité. Donc, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de morale. Donc, tout se vaut. Donc, on peut avoir aussi une large tolérance, puisque finalement, il n'y a que des vérités, ça veut dire des opinions personnelles qui, somme toute, se valent toutes les unes les autres. Et Hegel a cessé de raisonner en termes d'antithèse, c'est-à-dire ce qui est blanc n'est pas noir, ce qui est noir n'est pas blanc. Une chose ne peut pas être et être en même temps son contraire. Ça, c'était un des principes de base de la philosophie d'Aristote. Et finalement, Hegel, lui, a relativisé cette vision. Il a dit, dans le fond, la pensée progresse, la vérité, si vérité il y a, finalement, Hegel n'avait pas encore dit d'une manière explicite ce que diront plus tard ses successeurs, à savoir qu'il n'y a pas de vérité, mais la vérité, finalement, peut très bien se comprendre en termes de contradiction, c'est-à-dire que une chose peut être à la fois et en même temps elle peut être son contraire. Ça veut dire quelque chose peut être à la fois blanc et noir en même temps. Et alors, il a émis cette idée d'une vérité qui progresse par un raisonnement dialectique. Il a été le père de la dialectique. Et la dialectique, c'est l'idée, n'est-ce pas, que toute thèse, c'est-à-dire toute affirmation, l'affirmation c'est une thèse, entraîne immédiatement une réaction contre, son contraire, une antithèse. Et par conséquent, il y a conflit, il y a tension entre la thèse et l'antithèse. Et finalement, après des combats, n'est-ce pas, finalement, on voit ici un petit peu aussi, ça rejoint un peu le darwinisme, n'est-ce pas, la lutte pour la vie, le conflit est le moteur de l'histoire, si vous voulez. C'est une espèce de sacralisation du conflit. Alors cette opposition dialectique, elle peut se faire sur le plan philosophique. C'est sûr certain que là, sur le plan philosophique, une thèse entraînera forcément son antithèse pour une raison très simple, c'est que tout le monde a envie de se faire un nom et qu'il suffit que quelqu'un dise blanc pour qu'on essaye de dire noir, pour essayer de percer aussitôt et de faire sa place au soleil. Bon. Mais ça peut être, ce serait justement le grand drame du marxisme, ce sera de récupérer ce qui était au début, n'est-ce pas, une pensée purement philosophique, pour en faire le moteur de l'histoire et faire du conflit qui était au début un conflit d'idées, un conflit réel, un conflit de classe en particulier, n'est-ce pas, donc avec de véritables combats, des guerres, etc. Et finalement, au bout de ce conflit, n'est-ce pas, ce conflit se résout lui-même dans une synthèse. Entre la thèse et l'antithèse, ça veut dire entre la chose et son contraire. Finalement, il y a un arrangement, il y a les deux. Les contraires, n'est-ce pas, ne s'excluent pas, contrairement à la philosophie d'Aristote, mais finalement se complètent, finissent par s'harmoniser pour former une réalité nouvelle, la synthèse. Et quand la synthèse est opérée, immédiatement, elle devient une thèse et elle provoque donc une antithèse. Et à nouveau, un conflit nouveau qui va naître, pour se résoudre à nouveau dans une antithèse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez-vous? Ça, c'est la dialectique. Et alors, nous avons Marx, qui vient justement sur les brisées de Hegel, et qui trouve cette idée de la dialectique quelque chose de génial, et qui va tenter de l'appliquer à l'histoire. Nous allons avoir ici une dialectique historique. Et à l'exemple d'Hegel, Marx explique toute la marche de l'histoire par le conflit. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Par exemple, l'Empire romain, tout puissant, provoque, donc c'est la thèse, provoque la réaction des barbares. Les barbares envahissent l'Empire romain, c'est l'antithèse. Et finalement, il y a conflit, il y a chaos pendant un certain temps. Et finalement, le conflit entre l'Empire romain et les barbares se résout dans une synthèse qui sera la féodalité. La féodalité qui provoque à son tour une antithèse. Et ça va être donc la fin du Moyen Âge, la Renaissance, le désir de créer des États indépendants, etc. Et puis on va avoir l'absolutisme royal, c'est la synthèse. L'absolutisme royal provoque une antithèse, c'est la Révolution française. Et la Révolution française finalement produit une synthèse, l'avènement de la bourgeoisie. L'avènement de la bourgeoisie provoque la révolution industrielle, les ouvriers, et puis alors nous avons là donc la révolte des ouvriers, c'est l'antithèse. Et puis avec Marx, on en est là. Et la synthèse, eh bien ça va être, ben on ne sait pas encore ce que ça va être, mais ça va être quelque chose de tout à fait nouveau. Ça va être le socialisme. Tel que le conçoit Marx. Et puis finalement, le communisme, alors la différence, n'est-ce pas, c'est le socialisme, c'est à chacun selon son travail. Et puis on aboutira au communisme ensuite dans une nouvelle synthèse qui sera non plus seulement à chacun selon son travail, mais à chacun selon ses besoins. Et alors ce sera le paradis. Là, on aura atteint le bout de l'histoire, le but de l'histoire, parce que l'histoire a un but. Ça, c'est aussi le grand thème de la philosophie marxiste, n'est-ce pas? L'histoire a un but, qui est l'avènement du communisme, une société sans classe. Car finalement, thèse, antithèse et synthèse s'expliquent dans une lutte des classes. Finalement, ce n'est pas les États qui luttent entre eux, contrairement à ce qu'on peut croire, mais ce sont les classes sociales. Ce sont les esclaves contre l'aristocratie romaine. Et alors, il évoque l'histoire de Spartacus, la révolte des esclaves. C'est ensuite les serfs au Moyen Âge qui se révoltent contre les seigneurs, appuyés sur l'Église. Ce sont ensuite le tiers-État qui se révolte contre l'aristocratie à l'époque de la Révolution française. Et puis ensuite, ce sont les ouvriers qui se révoltent contre les patrons. Ce sont donc des classes. l'humanité sécrète des classes sociales. Et ce sont ce conflit de classes qui provoque l'avancée de l'histoire, les progrès de l'histoire, n'est-ce pas, sont toujours le résultat justement de cette dialectique, justement de cette lutte des classes. Il viendra un moment où en quelque sorte, la classe ouvrière prendra le pouvoir, parce que c'est l'histoire qui veut cela. C'est écrit dans la loi de l'histoire. N'est-ce pas, il y a des lois historiques, dit Marx, qui sont semblables aux lois scientifiques, et nous sommes aussi à l'époque du scientisme, et la philosophie marxiste se veut scientifique. C'est un matérialisme à la fois historique, mais à la fois scientiste, n'est-ce pas ? Dans ce sens que les thèses se veulent scientifiques, donc vraies. Il n'y a pas à discuter, puisque la science est vraie. 2 et 2 font 4, on n'a pas à discuter. Alors, évidemment, on récupère le darwinisme, la lutte des classes, la lutte des espèces entre elles, ça entre dans la dialectique marxiste, et puis le passage de l'humanité, de l'animalité à l'humanité, justement, tel que Darwin l'a conçu, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, le marxisme est athée, dans sa conception, et il essaye de prouver scientifiquement l'athéisme, n'est-ce pas ? Notamment justement grâce au marxisme, grâce au darwinisme, je veux dire. Et Dieu est une création de l'esprit de l'homme. D'ailleurs, là aussi, on reprend toute une idée évolutionniste, n'est-ce pas ? Le marxisme est évolutionniste, et c'est en cela qu'il se veut scientifique, parce qu'on considère, n'est-ce pas, l'évolutionnisme et la notion de progrès comme quelque chose de scientifique, parce que finalement, il y a à cette époque-là, en particulier au XIXe siècle, progrès des sciences. Ça, c'est tout à fait évident, n'est-ce pas ? Par conséquent, puisqu'il y a progrès des sciences, automatiquement, la notion de progrès est une notion scientifique. On ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait progrès indéterminé, etc. Non, c'était comme ça. Et par conséquent, le marxisme est quelque chose de scientifique, donc indiscutable. Et en même temps, n'est-ce pas, matérialiste, ça veut dire que c'est la matière qui est première et qui sécrète la pensée, qui sécrète l'esprit. Comme le foie sécrète la bile, disait Marx. C'était une très très belle image, évidemment très poétique, comme vous le voyez. Bon, donc automatiquement, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas besoin de Dieu. Il n'y a pas besoin de l'hypothèse Dieu. On est ici en plein dans la théorie de Le Verrier, n'est-ce pas, avec Napoléon dont on parlait la dernière fois. Et l'Église est un instrument de domination, d'aliénation, et notamment les notions de rétribution après la mort, de paradis, etc., ont été forgées par les prêtres avec l'appui des classes dominantes qui en profitent bien, et pour que les classes opprimées, les serfs à l'époque du Moyen-Âge, les ouvriers à l'époque de Marx, n'aient pas envie de se révolter. On leur dit, si vous êtes bien gentils, eh bien, vous aurez votre récompense dans l'au-delà. Par conséquent, ne vous révoltez pas. Si vous vous révoltez, vous perdrez votre paradis. Et Marx déclare, la religion est l'opium du peuple. Ça veut dire justement une espèce de calmant qui lui fait oublier ses misères et qui est là justement pour l'endormir. Par conséquent, le slogan « Ni Dieu ni maître », qu'on trouve dans l'International, il ne faut pas du tout faire de référence à aucune transcendance, puisque finalement, il n'y a de réalité que matérielle. Nous avons un matérialisme et il y a, n'est-ce pas, dans la matière, des forces qui agissent elles-mêmes, qui agissent scientifiquement. La matière est quelque chose qui préexiste, qui est éternel et qui se déroule inexorablement. Il y a un déterminisme, n'est-ce pas, complet dans la matière et l'homme subit ce déterminisme. C'est pourquoi l'histoire de l'homme aussi est prédéterminée. Et par conséquent, elle est prédéterminée, qu'on le veuille ou non, et les capitalistes ou les ennemis du peuple, les ennemis de, du marxisme auront beau faire, le triomphe du prolétariat est inexorable. L'avènement du communisme est inexorable parce que c'est écrit dans les lois même de la matière du déterminisme matérialiste. Par conséquent, il y a un sens à l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est qu'un jour, eh bien, le prolétariat anéantira le capitalisme. Le capitalisme s'autodétruit d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce qu'à force de manger, n'est-ce pas, les petits, eh bien, il finit par saper les bases mêmes sur lesquelles il est construit. Par conséquent, le matérialisme, le capitalisme qui profite toujours plus à un nombre toujours plus petit d'individus, finira par faire une unanimité contre lui, et les prolétaires de tous les pays, n'est-ce pas, finiront par écraser le capitalisme, et ce sera la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat est une condition obligée pour arriver justement au communisme, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une juste répartition des richesses, dans un premier temps par l'avènement du socialisme, c'est-à-dire où chacun sera justement rétribué selon l'importance de son travail, et non plus, n'est-ce pas, ne sera plus un exploité, n'est-ce pas, car le prolétaire, il y a toute une explication du prolétaire que fait Marx, le prolétaire c'est quelqu'un finalement qui vend ses bras, qui vend la force de son travail, et il n'est pas rétribué justement parce qu'au contraire, n'est-ce pas, son travail, le fruit de son travail profite au patron qui exploite en quelque sorte et puis lui donne simplement un salaire pour subsister et gardant pour lui la plus-value de son travail. Par conséquent, viendra un temps où les prolétaires prendront en main la direction de la société tout entière et feront en sorte que cette exploitation par justement la plus-value sera abolie et chacun recevra justement selon l'effort, selon le travail qu'il aura fourni. Quand on sera à ce stade-là, ce sera le stade avant-dernier, ce sera le stade du socialisme. Et puis ensuite, on arrivera à un deuxième stade en maintenant cette pression de la dictature du prolétariat, et ce sera l'avènement du communisme où chacun aura, selon ses besoins, indépendamment de l'effort qu'il aura fourni par son travail, car les biens de consommation seront tellement abondants qu'on pourra les répartir ainsi justement entre tous, selon justement les besoins des uns et des autres. Alors à ce moment-là, bien, l'histoire aura atteint son but, n'est-ce pas ? C'est inscrit dans l'histoire. Ce que Marx ne voyait pas, c'est qu'en déclarant, n'est-ce pas, qu'il y a dans la matière une force, en quelque sorte, qui dirige l'histoire, qui dirige le moteur, n'est-ce pas, c'est que finalement, il y a, en quelque sorte, un esprit qui est dans la matière, et puis, donc, une transcendance qu'il veut nier. Ça veut dire, si vous voulez, que la matière est Dieu. Et ça veut dire, finalement, que tout est Dieu. On retombe ici dans un panthéisme. Le vieux panthéisme, c'est-à-dire que tout est Dieu. Dieu est en tout et tout est parti de Dieu. Finalement, le marxisme, c'est un peu cela. C'est un peu cela. Les chrétiens ne voient pas très bien ce que le marxisme peut représenter de danger à cette période-là. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, il faudra même au pouvoir public un certain temps pour se rendre compte de la force extraordinaire que représente le marxisme. Mais aujourd'hui, on sait, n'est-ce pas, ce qu'il en a été, et que le marxisme a été une des forces les plus destructrices de la foi chrétienne, au sens propre comme au sens figuré, car finalement, des millions de martyrs ont été mis à mort dans le monde, en prison, etc., dans les régimes qui étaient des régimes marxistes. Alors, ça, c'est un des très, très grands adversaires du christianisme qui naît à cette période-là. Et enfin, dernier point, c'est Nietzsche, 1844 et 1900. Nietzsche, lui, qui commence par rejeter tout ce qui est le judéo-christianisme. Nietzsche est un homme qui a une haine viscérale de tout ce qui est juif, et par conséquent du christianisme qu'il considère comme un avatar du judaïsme, donc de la rédemption, des vérités chrétiennes et des vertus chrétiennes. Pour lui, il faut absolument détruire le judéo-christianisme et revenir, n'est-ce pas, au paganisme, il le dit, n'est-ce pas, le paganisme, le joyeux païen, n'est-ce pas, spontané, qui n'est plus inhibé par quoi que ce soit, n'est-ce pas, et finalement, dans la droite ligne de la philosophie rousseauiste, l'homme qui est bon, n'est-ce pas, donc le christianisme, le judéo-christianisme, par son culte du renoncement, du péché, etc., pas du culte du péché, mais enfin la notion du péché, à inhiber ce qu'il y a de bon dans l'homme. Alors, faisons table rase du judéo-christianisme, et puis l'homme redeviendra un joyeux païen qui exprimera spontanément toutes les potentialités de son être. Et la société sera transformée aussi de cette manière-là. Et finalement, Nietzsche aussi est un homme qui a une vision d'un progrès incessant, n'est-ce pas ? Un petit peu comme Marx dans ce domaine-là, et qui considère, n'est-ce pas, que l'homme doit se surpasser. Et il y a, chez Nietzsche, qui est un Allemand, et qui est un petit peu l'héritier aussi de toute la philosophie, romantique, n'est-ce pas, qui est né en Allemagne au XIXe siècle, enfin, sur l'héritage du romantisme, n'est-ce pas, donc le retour à la nature, à la simplicité, n'est-ce pas, etc., enfin, bon. Et alors, il y a cette idée, n'est-ce pas, que le culte de la force chez Nietzsche, le culte de la force contre justement le judéo-christianisme qui prône l'humilité, la douceur, etc. Et alors, Nietzsche caricature le chrétien, un petit gars timoré, timide, renfermé, qui n'ose pas, c'est pas, qui renonce toujours, qui supporte, etc., qui tend la joue droite quand on lui le tape sur la joue gauche, etc. Alors, Nietzsche, c'est tout le contraire, c'est pas c'est normal que les forts oppriment les faibles, finalement, c'est la vision païenne, c'est encore une fois, c'est Darwin, n'est-ce pas, la lutte pour la vie, la lutte des espèces pour la vie, n'est-ce pas. Et finalement, Nietzsche prône l'athéisme, ou du moins l'agnosticisme, et c'est lui qui, le premier, n'est-ce pas, dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathoustra, écrit un texte qui est d'ailleurs qui ne manque pas, qui a un certain panache, une certaine allure, n'est-ce pas, dans lequel il prône justement, il dit voilà, qu'avons-nous fait? Eh bien, finalement, en attaquant le christianisme, eh bien, nous avons tué Dieu. Nous sommes les assassins de Dieu. Dieu est mort. Et c'est cette affirmation qui est finalement centrale dans la théologie de Nietzsche, n'est-ce pas ? Dieu est mort. Ça fait intéressant de voir qu'au XXe siècle, certains théologiens chrétiens sont allés jusqu'à récupérer cette énormité, cet énorme blasphème, n'est-ce pas ? Et puis, il y a des théologies qu'on appelle les théologies de la mort de Dieu. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera du XXe siècle, n'est-ce pas ? Bon, mais ça, c'est Nietzsche. C'est païen. Et quand Nietzsche dit « Nous avons tué Dieu, Dieu est mort », qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire tout simplement que ce Dieu qui n'a jamais existé, eh bien, maintenant, on a tué l'idée de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même, puisqu'il n'a jamais existé pour Nietzsche. Mais l'idée de Dieu est détruite, l'idée de Dieu est tuée. Et alors, il fallait tuer Dieu. Il fallait tuer Dieu, c'est-à-dire il fallait tuer l'idée de Dieu pour Nietzsche, pour permettre le dépassement de l'homme. Car si Dieu existe, alors je ne suis pas libre. Et ça, vous retrouvez ça chez Sartre aussi, vous trouvez chez les philosophes existentialistes du XXe siècle, à l'occasion d'y revenir. Si Dieu est Dieu, si Dieu existe, alors je suis soumis à une morale, je suis soumis à des règles, et par conséquent, l'homme n'est pas libre. L'homme est bridé, et il y a la foi en Dieu est un obstacle au progrès. Progrès qui est une des idoles du XIXe siècle. Progrès, quand on dit progrès, c'est essentiellement, encore une fois, le progrès scientifique, je ne dis même pas le progrès scientifique, le progrès technique, ça, et qui devient une valeur, et qui devient un moyen par lequel on explique tout, puisque finalement Darwin récupère cette idée du progrès technique qui est le fait de son siècle pour expliquer l'origine des espèces. Par conséquent, le progrès ne doit pas être bloqué par rien. Et si quelque chose se met en travers de la marche du progrès, il faut l'éliminer. Le chrétien, le christianisme et le juif s'opposent au progrès par le fait même qu'ils sont chrétiens. Alors il faut écraser le christianisme. Il faut écraser l'idée de Dieu pour permettre au progrès de s'épanouir. Et alors nous arriverons à alors quelque chose de merveilleux, dit nous Nietzsche, le surhomme, l'apparition du surhomme. L'homme va se dépasser, s'étant débarrassé de Dieu, il va y avoir le surgissement d'un surhomme dont on n'a pas encore la moindre idée, qui sera l'homme qui aura mis en évidence toutes ses potentialités, qui va muter, n'est-ce pas, encore les plus forts ayant éliminé les plus faibles, finalement par une espèce de sélection naturelle de la race humaine va progresser vers encore une nouvelle étape de l'évolution, quoi. Alors, cette idée de Nietzsche, n'est-ce pas, est extrêmement dangereuse. Parce que finalement, bien entendu, l'homme de la rue, l'homme moderne, ne connaît pas la philosophie de Nietzsche. Il n'a jamais lu Ainsi parlait Zarathoustra. Mais les idées de Nietzsche sont dans l'air du temps. N'est-ce pas? Le culte du progrès. Nietzsche et Marx se rejoignent sur ce point-là, bien que Nietzsche ne pouvait pas voir Marx et Marx ne pouvait pas voir Nietzsche. C'est intéressant de voir qu'ils étaient tout à fait opposés et pourtant ils ont finalement de nombreux points communs. N'est-ce pas ? Et alors finalement, il y a cette idée de Nietzschéenne, n'est-ce pas, du culte du progrès. Hein, et finalement, rien ne doit bloquer le progrès. C'est pourquoi, par exemple, si vous êtes contre la modernité, vous êtes un abominable réactionnaire, un abominable bonhomme, n'est-ce pas ? Parce que le progrès indéfini, c'est une valeur qu'on ne remet pas en cause, c'est un axiome, c'est bon. Comme disait Jacques Ellul un jour que je m'entretenais avec lui, n'est-ce pas ? On ne s'est jamais demandé à quoi mènerait ce progrès ininterrompu, d'abord à l'épuisement des ressources. Parce que s'il y a une croissance ininterrompue, eh bien, viendra un moment où il y aura de toute façon les ressources qui seront toutes épuisées. Mais ça, on ne se l'est pas posé la question, n'est-ce pas ? Là, le progrès, c'est un absolu. Bon. Deuxième pensée qui se trouve chez Monsieur Tout-le-Monde, c'est qu'effectivement, la religion, entre guillemets, c'est-à-dire quand on dit la religion, ça veut dire la religion judéo-chrétienne, est un facteur de conservatisme, est un facteur qui s'oppose au progrès. D'abord parce que la religion s'oppose à la science, à une vue correcte des choses, et puis deuxièmement parce que effectivement, n'est-ce pas, il y a cette idée que la religion ne développe pas toutes les qualités de l'individu, empêche sa liberté par sa morale rigide, et c'est pas les rappels que fait Jean-Paul II constamment de la morale qui vont amener Monsieur Tout-le-Monde à penser autrement. Et alors, c'est une des raisons, n'est-ce pas, pour laquelle il y a aujourd'hui cet athéisme militant dans notre société. Puis Nietzsche a eu, évidemment, vous l'avez peut-être discerné quand j'ai évoqué succinctement sa philosophie tout à l'heure, n'est-ce pas, Nietzsche a eu encore une deuxième influence dramatique, n'est-ce pas, pour le peuple juif. D'abord parce que Nietzsche a contribué, avec d'autres, nombreux en Allemagne de son temps, à diffuser justement l'antisémitisme. Et puis, troisièmement, parce que finalement, l'hitlérisme, le nazisme, était basé sur la philosophie de Nietzsche en partie, en grande partie, n'est-ce pas ? Nietzsche a forgé, n'est-ce pas, a forgé Hitler. Hein, donc l'idée du surhomme, le surhomme, c'est quoi ? C'est l'allemand, c'est l'arien. C'est l'arien, comme disait l'ancien SS qu'on a rencontré en Israël cet été. Il y avait du temps d'Hitler, n'est-ce pas, des maisons spéciales où on envoyait les SS les plus conformes aux critères de la race aryenne, qui passaient des examens médicaux approfondis, rencontraient des jeunes filles, elles aussi sélectionnées médicalement pour être conformes aux critères de la race aryenne, dans le but de mettre au monde des jeunes Aryens qui seraient le nec plus ultra de la race aryenne, quoi, hein, qui seraient élevés par l'État, etc., etc., et qui régénéreraient la race, exactement comme on fait pour du bétail, quoi. C'était exactement la même pensée. Bon, ben ça, c'est Nietzsche. Hein. C'est Nietzsche. Hein. Hitler ne pouvait pas souffrir le judéo-christianisme pour la même raison que Nietzsche. Parce que le chrétien était un petit individu falot, sans aucune personnalité, timide, toujours prêt à tendre la joue droite, alors que pour Hitler, c'était la force brutale, n'est-ce pas, les forts qui doivent dominer les faibles, la race des seigneurs qui doit dominer les autres races, éliminer la race des sous-hommes, puis ensuite les autres races, la race nègre, par exemple, il était très anti-africain et noir, n'est-ce pas, Hitler. Les Slaves, les Polonais, etc., c'était des races de sous-hommes qui, à terme aussi, devaient être éliminées. Et puis, alors, à terme aussi, le christianisme. C'est des gens comme le pasteur Bonhoeffer ou le pasteur Neil Moner avaient bien vu le danger que représentait Hitler pour le christianisme. Parce que, après le judaïsme, c'est évident, le christianisme était le deuxième sur la liste noire d'Hitler, parce qu'il était nietzschéen. Parce qu'il était nietzschéen. Alors, comme dit Jésus, on reconnaît l'arbre à son fruit, et là on voit que ces philosophies ont été des philosophies diaboliques, que ce soit le marxisme, que ce soit le positivisme de Kant, que ce soit la philosophie de Nietzsche, c'était véritablement des philosophies diaboliques, n'est-ce pas? Bon, on pourrait ajouter aussi le freudisme là-dessus, mais ça c'est un autre chapitre. En tout cas, ce qui est certain, n'est-ce pas, c'est que c'est... Bon, tous ces choses-là sont passées de mode, n'est-ce pas? Nietzsche, depuis Hitler, plus personne n'est un tenant mordicus, n'est-ce pas, de la philosophie nietzschéenne. Comte aussi, bon, le positivisme scientifique, il a fait son temps. Quant au marxisme, c'est la même chose, n'est-ce pas? Bon, il y a encore quelques nostalgiques du marxisme, enfin, c'est quand même une petite minorité. Par contre, n'est-ce pas, ils ont laissé des traces délétères dans la société. Même Marx, on continue à, dans bien des domaines, n'est-ce pas, à raisonner selon un schéma marxiste inconscient. C'est ce qui est absolument formidable, n'est-ce pas? C'est que les schémas nietzschéens, les schémas marxistes, les schémas freudiens et les schémas positivistes, n'est-ce pas, sont ce dont se nourrit notre société. Et la philosophie de base de Monsieur Tout-le-Monde est une espèce de synthèse, une espèce de melting pot de toutes ces choses-là. Et quand je dis la philosophie de Monsieur Tout-le-Monde, ça veut dire celle qui est diffusée dans les moyens d'information, notamment la télévision. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la télévision est tellement redoutable. C'est parce que même lorsqu'il n'y a pas de spectacle véritablement pornographique ou autre, n'est-ce pas, si vous voulez, la philosophie qui sous-tend tout cela est une synthèse, justement, de tous ces différents courants. Et finalement, celui qui est devant son poste de télévision, celui qui lit les journaux, celui qui écoute la radio, n'est-ce pas, et qui prend ça pour argent comptant, résonne dans ces termes-là, résonne dans ces catégories-là, résonne en termes de matérialisme historique, de dialectique, de refus de la vérité, et une vision hegelienne, n'est-ce pas? Il y a des opinions qui se valent toutes, etc. C'est hegelien, n'est-ce pas? On se rend même pas compte d'où ça vient, mais c'est comme ça. Bon, l'idée du progrès, etc. Bon, ce sont des choses, et des choses qui sont évidentes, qui sont d'autant moins perçues, justement, qu'elles semblent évidentes. Et on ne se rend pas compte d'où elles viennent, voyez-vous? Et là, les chrétiens du 19e siècle n'ont pas vu ces dangers. Ils n'ont pas vu justement ces trois esprits infernaux, si on voulait reprendre l'image de l'Apocalypse, qui sortent de la bouche de la bête et du faux prophète, n'est-ce pas, et qui vont vers les rois de la terre pour les corrompre. C'était un peu ça. Ils n'ont pas vu. Et le drame, c'est que ces philosophies-là n'ont pas développé leurs effets tout de suite. Il a fallu des dizaines d'années. Et en même temps, ça nous montre combien aussi nous devons être extrêmement attentifs à tous les différents courants comme ça qui commencent, c'est pas parfois comme un tout petit ruisseau qui semble sans importance. Peut-être même que on en riait à cette époque-là. On en riait de ce que c'est ces idées bizarres, biscornues, n'est-ce pas? Mais qui devaient faire leur chemin. Et là, il faut un véritable regard prophétique pour pouvoir discerner des choses comme ça. Bon, je suis persuadé que de notre temps, il y en a d'autres aussi, et il y en a beaucoup plus nombreuses, et c'est pire encore qu'au 19e siècle, parce que là, ça va beaucoup plus vite. Au 19e siècle, c'était quand même relativement lent, tandis que de notre siècle, ça va beaucoup plus vite. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais enfin, je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas tellement notre sujet. Et finalement, on arrive à ce stade où l'Église, aujourd'hui, à cause de ses courants, n'est-ce pas, se retrouve un peu dans la situation de l'Église du premier siècle, c'est-à-dire justement un courant marginal dans la société, dans une socialité qui est sécularisée, comme on dit, qui est laïcisée et qui l'est justement sous l'influence de ces penseurs du 19e siècle que l'on a appelé les maîtres du soupçon. Les maîtres du soupçon parce que ce sont des gens justement qui ont jeté le doute dans l'esprit justement de bien des gens, notamment justement sur la notion de vérité. Et ça, c'est un des grands drames de notre temps aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a plus de vérité. Et on pourrait dire, comme le disait Pilate, eh bien, pour beaucoup de gens, quand on leur parle de vérité, qu'est-ce que la vérité? Et c'est en cela aussi que les chrétiens, dans leur méthode d'évangélisation, tombent à côté. Parce qu'en tant que chrétiens, nous raisonnons encore aussi, nous sommes à la fois, donc, comme je disais, inconsciemment imbibés justement de la philosophie du soupçon. Mais en même temps, n'est-ce pas, nous sommes aussi dans une autre dimension, dans une autre problématique, qui est la problématique biblique, où il y a d'un côté la vérité, où il y a l'erreur. Et alors, n'est-ce pas, nous proclamons, beaucoup de chrétiens proclament, aux autres, ben voilà la vérité, sans se rendre compte que pour les gens, ça ne veut rien dire. Quand nous disons, ben voilà la vérité, eh bien, ils disent, voilà votre opinion, ils comprennent, voilà votre opinion. Bon, vous avez votre opinion, vous les chrétiens, les bouddhistes en ont une autre, les musulmans une troisième, les confucianistes une autre, les marxistes une autre, etc. Moi, j'ai la mienne. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi adopter une autre vérité, puisque de toute façon, toutes les vérités se valent et qu'il n'y a pas de vérité. En fin de compte, quand on dit toutes les vérités se valent, ça veut dire, en dernier recours, il n'y a pas de vérité. D'où c'est une des grandes difficultés de l'évangélisation de notre temps. Bon, ben ça, c'est un autre chapitre sur lequel on pourrait parler longtemps, mais je passe. Voilà donc, si vous voulez, quels sont les principaux contextes dans lesquels, justement, se sont trouvés les chrétiens du 19e siècle. Or, justement, comme ces différents courants n'avaient pas encore déployé tous leurs effets, le christianisme du 19e siècle a connu finalement peu d'opposition. Et le 19e siècle, comme je disais la dernière fois, a pu être un grand siècle, un siècle très marqué par le christianisme. Et le 19e siècle a vu un réveil de tous les différents courants du christianisme. Dans le monde protestant, les réveils du 18e, piétistes et wesleyens, ont, sur la lancée, provoqué d'autres réveils qui se sont amplifié pendant toute la durée du 19e siècle. Il y a eu une vague ininterrompue de réveils un peu partout dans le monde pendant toute la durée du 19e siècle. Et puis on peut dire aussi qu'au niveau surtout de l'Église catholique, un peu moins de l'Église orthodoxe, encore que là aussi, nous aurons l'occasion de le voir, mais surtout de l'Église catholique, il y a eu, on ne peut pas appeler un réveil pour ce qui est de l'Église catholique, parce que l'Église catholique ignore la notion de réveil, mais il y a eu un renouveau catholique indiscutable. Renouveau du 19e siècle, et le 19e siècle a été un grand siècle pour l'Église catholique qui, au début du 18e, à la fin du 18e, je veux dire, était quasiment dans une situation, en tout cas, pas facile, était sur la défensive, était dans une situation où on pouvait se demander si elle allait perdurer. Or, justement, contre toute attente, le 19e siècle a été un nouveau souffle extraordinaire pour l'Église catholique. Donc, à la fois protestantisme et catholicisme vont connaître une grande époque de gloire, une grande époque de splendeur, je ne sais pas si on peut dire la dernière, espérons que ça ne l'est pas, espérons que le 21e siècle, qui est pratiquement bientôt là, eh bien, sera à nouveau un grand moment, à moins que le Seigneur ne revienne, mais ça, évidemment, personne ne le sait, le Seigneur seul. Parlons, si vous le voulez, d'abord du protestantisme de langue française. On est obligé de cerner parce que là, donc, pour la première fois, le christianisme touche le monde entier. Alors parlons d'abord, si vous voulez, de nos pays. La fin du XVIIIe siècle, dans la foulée de la Révolution française, a amené dans les pays francophones une vague de rationalisme et d'indifférence. Donc, un attiédissement de la foi protestante très fort. Les idées de Rousseau étaient répandues dans le protestantisme et les pasteurs prêchaient plus Rousseau que l'Évangile. La profession de foi du vicaire savoyard, donc typiquement naturaliste, etc., était certainement la confession de foi de bien des pasteurs français et francophones, en Suisse notamment, n'est-ce pas ? Pour en donner un exemple, en 1817, à Genève, La vénérable compagnie des pasteurs de Genève, qui est une, institution qui demeure jusqu'à nos jours et qui est véritablement quelque chose d'impressionnant, n'est-ce pas, interdisait à tous les pasteurs du canton de Genève de prêcher sur la divinité du Christ et sur le péché originel, pour vous donner une idée. Donc ici, on est à fond, n'est-ce pas, dans le rousseauisme, dans la profession de foi du vicaire savoyard. Il faut dire qu'il y a eu un bastion en France qui est resté fidèle à l'Évangile, c'est la région de Montauban. Ça va faire plaisir à Joël, n'est-ce pas? Là, il y a eu une résistance, n'est-ce pas? Il y avait une faculté de théologie à Montauban en cette période-là, et les pasteurs qui sortaient de la faculté de théologie de Montauban étaient les pasteurs qui restaient fidèles véritablement à l'Évangile. Et c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, qu'a éclaté le réveil de Genève. Le réveil de 1817, qui a été un grand moment pour les églises de langue française. Le réveil de Genève a commencé sous l'impulsion d'un pasteur écossais qui se nommait Robert Haldane, dont nous avons déjà parlé, qui était très marqué par le méthodisme et qui est venu à Genève en 1817. Et là, il a rassemblé autour de lui un certain nombre de jeunes, notamment de jeunes étudiants en théologie de l'Université de Genève, et il leur a parlé de l'Évangile, en quelque sorte. Et ces jeunes ont commencé à se rassembler donc dans les chambres des uns et des autres, dans les chambres d'étudiants des uns et des autres. C'est là que le réveil a commencé. Et là, les uns après les autres se sont convertis. Des gens qui devaient être les instruments du réveil dans les pays de langue française et en particulier en Suisse romande. Notons parmi eux Olivier Malan, par exemple, Émile Gers, qui a écrit ce remarquable livre sur le destin d'Israël, qu'on a en bibliothèque, je crois, Marc. Émile Gers, donc, est un de ceux qui s'est converti dans la foulée de ce réveil de Genève, étudiant en théologie. Et ce fut le début d'un réveil qui secoua la Suisse et la France pendant toutes ces années-là. Il faut citer aussi César Malan, 1887-1864, qui a écrit un recueil de cantiques, qui ça porte comme titre « Les chants de Sion », qui a été un des instruments du réveil. Louis Gossin, Gossan, 1790-1863, qui a fondé plus tard une faculté de théologie dite de l'oratoire à Genève, qui était une faculté de théologie orthodoxe en réaction contre les facultés de théologie libérale qui, comme j'ai dit tout à l'heure, interdisaient même de prêcher sur la divinité du Christ. Citons aussi Thomas et Alexandre Campbell, qui étaient des anglophones. En 1807, Campbell était pasteur d'une église presbytérienne au nord de l'Irlande, et il a été exclu parce qu'il voulait rassembler des chrétiens autour de la Bible et de la Bible seule. Et finalement, Campbell, après un passage à Genève, est parti pour les États-Unis. S'est établi à Philadelphie. Et là, il a créé une association chrétienne qui avait pour but justement de répandre l'Évangile véritable, ce qui l'a amené aussi à abandonner le système synodal pour le système congrégationaliste. Plus tard, la famille Campbell rejoindra le père en Angleterre, et en 1811, le mouvement connaîtra une officialisation, bien que il ait connu une grande opposition. Maintenant, il est évident que Campbell était un homme qui avait poussé un peu loin le congrégationalisme. Il rejetait tout ce qui était les credos humains. Bon, on était encore, malgré tout, influencé par les idées de Rousseau sans même s'en rendre compte. Je parle tout à l'heure de l'influence du marxisme qui joue sur nous sans qu'on s'en rende compte, de la philosophie de Nietzsche. Eh bien, à cette époque-là, c'était la philosophie de Rousseau, n'est-ce pas? Pas de credos humains, simplement la spontanéité, les sentiments qui s'expriment, une piété assez sentimentale. Et finalement, la piété du 19e siècle, qu'elle soit protestante ou catholique, va être une piété souvent très sentimentale. Et les réveils n'y échapperont pas. Par exemple, les cantiques que nous chantons, les ailes de la foi, sont pour la plupart d'entre eux des cantiques qui sont nés soit dans le réveil de Genève, soit dans les réveils qui ont suivi, si vous voulez, dans la mouvance du réveil de Genève. Bon, il y a des cantiques qui sont magnifiques. Il y en a dans lesquels on sent justement un petit peu ce sentimentalisme, bon, faut bien le dire, parfois un peu à la patte de Guimauve. Hein? Mais ça, c'est typiquement, c'est typique à la piété du 19e siècle. Encore une fois, qu'elle soit protestante ou qu'elle soit catholique. Voyez-vous, il y a souvent beaucoup plus d'osmose entre le catholicisme et le protestantisme que nous ne le pensons, n'est-ce pas? Et souvent, n'est-ce pas, l'un comme l'autre sont aux confluences des mêmes courants et subissent les mêmes influences avec des effets qui sont souvent proches. Bien que, évidemment, il y a des différences aussi. Mais souvent, c'est ainsi, n'est-ce pas? Dans l'histoire de l'Église, c'est quelque chose que l'on constate. Alors, il y a aussi, parmi ces grands hommes qui se sont levés dans la mouvance du réveil de Genève de 1817, Merle d'Aubigné, qui était un descendant d'Agrippa d'Aubigné, qui était établi à Genève, bien entendu, après la persécution. Pardon? C'était l'historien de 1784-1873 qui a écrit une monumentale histoire de la Réformation en France, n'est-ce pas? Qui a encore sa valeur aujourd'hui. Et Merle d'Aubigné s'est attaché particulièrement à répandre le réveil en France. Il a quitté Genève et il a parcouru la France en tous sens pour y prêcher le réveil. Citons ensuite Ami Bost, 1790-1874, qui était un évangéliste aussi très puissant et en même temps un compositeur, un très grand musicien, qui a composé pas mal de cantiques, qui était le père de John Bost, le fondateur des asiles de la Force, n'est-ce pas? Il y a toute une continuité ici qui s'est produite à ce moment-là. Que se passait-il à ce moment-là, donc, sur le plan de la situation des églises en France en particulier? Car en Suisse, ça ne faisait pas tellement problème. Mais par contre, la situation politique en France avait des incidences évidemment très grandes sur le développement des églises protestantes. En juillet 1802, n'est-ce pas, Bonaparte s'était fait nommer premier consul et il a signé avec les religions françaises le concordat. C'est-à-dire que la religion catholique était comme reconnue comme la religion de la majorité des Français, mais à côté d'autres religions. Pour la première fois, le catholicisme a dû reconnaître qu'il y avait à côté d'elle en France, n'est-ce pas, d'autres religions qui avaient droit de citer de la même manière. Alors le concordat impliquait un certain nombre de devoirs et de reconnaissances réciproques. Il faut dire que les relations entre Napoléon et l'Église catholique en particulier ont été particulièrement tumultueuses pendant son règne. Napoléon était un homme dont on ne peut pas... la religion pouvait un petit peu calmer les ardeurs révolutionnaires de certains nombre de ces éléments. Napoléon n'avait pas que des amis en France, bien évidemment, et il se disait finalement que faire peur un petit peu aux gens par l'enfer et puis leur laisser miroiter le paradis, ça aiderait, ça éviterait de mettre des forces de police derrière chaque Français. Et que finalement, les prêtres pourraient fort bien faire la police. Et c'est pourquoi, finalement, nommé premier consul, donc après la tourmente révolutionnaire, Napoléon a voulu normaliser les relations avec l'Église, les Églises, n'est-ce pas? Donc, par contre, ce qu'il voulait, Napoléon était un homme très, très autocratique, n'est-ce pas, et qui avait une vision très centralisatrice de l'administration. C'est d'ailleurs lui qui a mis en place, vous savez, les départements, etc. Enfin, l'administration française, le code Napoléon a été, sur le plan juridique, la Bible du droit français jusqu'à il y a peu, n'est-ce pas. Et par conséquent, Napoléon a voulu s'assujettir l'Église, et notamment l'Église catholique. Il revenait d'ailleurs en cela dans une vieille tradition qui était la tradition gallicane. Il aurait voulu pouvoir nommer lui-même les évêques, etc., un petit peu comme il nommait les préfets. C'était un petit peu la même pensée. Et finalement, le concordat était un pas vers cette mise au pas, n'est-ce pas, de l'Église catholique en France. Il y avait un accord sur la nomination des évêques, n'est-ce pas? Le pape ratifiait ce qui était proposé finalement par le gouvernement français, en échange de quoi le catholicisme était religion reconnue officiellement, elle avait droit de citer, les édifices religieux lui étaient rendus, couvents, etc., qui avaient été confisqués à la Révolution, et les les ecclésiastiques étaient fonctionnaires de l'État, ça veut dire qu'ils étaient payés par l'État. Et dans la même foulée, Napoléon a reconnu le même statut aux églises protestantes. L'église protestante, donc. Automatiquement, ça impliquait des représentations devant l'État. L'État voulait avoir des interlocuteurs avec lesquels parler. Et donc, il y avait création de consistoire. Le protestantisme était représenté par un consistoire. L'Église catholique était représentée par ces institutions qui étaient pyramidales. Donc, ça ne posait absolument aucun problème pour Napoléon, puisque, au contraire, il se retrouvait vraiment dans le type d'organisation qui était le sien. Mais par contre, le protestantisme a dû s'organiser en consistoire. Il y avait donc des consistoires régionaux et un consistoire national qui était responsable devant l'État. Napoléon a aussi reconnu officiellement le culte juif. Ça, c'était aussi quelque chose de tout à fait nouveau. C'était logique dans la logique révolutionnaire, justement, puisque la Constituante avait reconnu le judaïsme comme, en tout cas les Juifs, comme citoyens à part entière. C'était la grande innovation de la Révolution, ce qu'on appelle l'émancipation. Et finalement, les guerres napoléoniennes vont répandre cette émancipation des Juifs un peu dans tous les pays d'Europe. Et alors, donc, il y a reconnaissance du culte juif. Lui aussi qui doit s'organiser sur le même modèle que le protestantisme, ça veut dire en différents consistoires, consistoires régionaux, et puis le consistoire central. Disons d'ailleurs que cette organisation du judaïsme français perdure jusqu'à aujourd'hui. Le protestantisme n'a pas gardé la structure de l'époque napoléonienne parce que justement le 19e siècle a vu l'arrivée de courants autres que les courants luthéro-réformés. Qui régnait sans partage au début du 19e siècle sur la France. Mais à partir de la chute de Napoléon en particulier, les courants évangéliques anglo-saxons vont s'implanter en France. Nous avons l'occasion de le voir. Ce sera d'abord le cas des Baptistes dans le nord de la France, à la suite de la bataille de Waterloo, où des soldats anglais sont en garnison donc en Belgique et dans le nord de la France. Et parmi eux, il y a des baptistes, il y a des soldats qui sont convertis de véritables chrétiens et qui rendent témoignage aux habitants au milieu desquels ils sont cantonnés. Et c'est ainsi, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est pas sur les débuts du baptisme en France, que se créent les premières églises baptistes en France, dans le nord de la France, sous l'influence justement de ces soldats baptistes anglais napoléoniens. C'est aussi l'époque où les méthodistes viennent prêcher l'évangile en France. Ils se rendent compte que ce n'est pas le tout d'aller prêcher l'évangile en Afrique ou aux extrémités de la terre, mais que à leur porte, il y a des gens qui aussi ont besoin d'être évangélisés. Et ce sera notamment le cas de la Bretagne. La Bretagne sera un endroit où les méthodistes vont tenter justement de réévangéliser un pays qui avait été complètement vidé de toute présence protestante au moment de la contre-réforme, n'est-ce pas? Il y aura ensuite, dans le courant du siècle, l'armée du salut, etc. Tant et si bien, si vous voulez, puis se créeront des missions diverses, missions McCall, etc. Tant et si bien que le protestantisme devra s'adapter à cette évolution-là. Et au début du XXe siècle, au lieu du consistoire, il va y avoir la création de la Fédération protestante de France, en 1905. Par contre, le judaïsme ne connaît pas ce type de problème. Tant et si bien que l'organisation qui date de Napoléon, consistoires régionaux puis consistoires centrales, perdure jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, l'interlocuteur du gouvernement, au point de vue des institutions juives, c'est le consistoire central. Le consistoire central, qui a à sa tête le grand rabbin de France, qui était déjà la structure qui existait à l'époque napoléonienne. La loi règle l'organisation aussi des églises réformées à l'époque de Napoléon. Par exemple, il y a une église consistoriale pour 6 000 protestants établie dans une localité. 5 églises locales forment un arrondissement et donc se crée un synode au niveau de 5 églises locales. Maintenant, ce qui est la marque de l'ingérence de l'État dans les affaires d'Église, c'est qu'un synode ne peut être convoqué qu'avec l'accord de l'État. Ça veut dire que pour convoquer un synode, il faut demander l'autorisation du préfet. et il faut donner d'avance les thèmes qui seront traités, et le préfet doit présider lui-même en personne le synode. Vous voyez le style, quoi, hein. Évidemment, aujourd'hui, ça nous fait rire, encore que ce n'est pas tellement à rire, parce que je pense que de plus en plus, on va vers une ingérence de plus importante de l'État, justement, les affaires des Églises. Ce qui veut dire que toutes les décisions, finalement, qui vont naître du synode, doivent recevoir la sanction de l'État. Ça veut dire que l'État peut mettre son veto. Si le synode prend une décision qui déplaît au préfet, ce dernier, au nom de l'État, eh bien, met son veto. Les pasteurs doivent être assistés de 10 ou de 12 notables qui doivent être des gens qui ont un certain niveau de fortune. Vous, il y a une discrimination sur la fortune. Ce sont les grands bourgeois. Ici, nous sommes vraiment dans la France napoléonienne est une France de la grande bourgeoisie. Et finalement, c'est la grande bourgeoisie qui a les leviers de commande dans tous les différents domaines. En contrepartie, les pasteurs sont payés par l'État. Et il y a trois facultés qui sont reconnues par l'État pour former les pasteurs. Genève, qui n'est pas en France, mais qui forme beaucoup de pasteurs français. Et finalement, il y a une reconnaissance par l'État français des diplômes qui sont délivrés par les facultés de théologie de Genève, Strasbourg et Montauban. Ce sont les trois facultés à cette époque-là. Le Conseil d'État doit être tenu au courant de toutes les discussions, y compris des désaccords entre les pasteurs. Voyez-vous, jusqu'à la mainmise de l'État sur l'Église à cette époque-là. Mais finalement, c'est mieux que rien. Et le protestantisme accepte ces conditions. Et c'est ainsi que se créent ces fameuses églises consistoriales. Seulement, le protestantisme vit encore dans une espèce de crainte de l'État, n'est-ce pas ? Et comme justement on est tenu à ces règles très strictes, n'est-ce pas, du contrôle étatique, eh bien, finalement, il n'y aura pas, dans toute la période napoléonienne, et même au-delà, n'est-ce pas, il n'y aura pas un seul synode de convoqué, parce qu'on ne veut pas de la mainmise de l'État, on ne veut pas de la présence du préfet. Et on n'ose pas convoquer de synode. Et ce n'est qu'en 1848, c'est-à-dire après la révolution, la révolution de 1848, profitant justement de ça, que l'on ose convoquer, non pas un synode, on n'appelle pas ça synode, mais une assemblée générale. C'est le premier rassemblement, si vous voulez, général du protestantisme français. Et à partir de 1818, on va créer des sociétés religieuses, plus ou moins secrètement, sans en avoir référé à l'État, contrairement à la loi. Mais on le fait timidement avec alors des sociétés de bienfaisance, des choses comme ça, des choses qui sont dans la mouvance directe d'une église locale, si vous voulez, et qui ne dépassent pas le cadre d'une église locale, parce qu'on a peur. On a peur de la mainmise et de l'intervention de l'État dans toutes ces choses-là. Et alors, c'est dans ce contexte que va éclater le réveil de Genève, dont je parlais tout à l'heure, et qui va avoir des incidences en France. C'est dans ce contexte-là aussi que, donc, à la chute du régime impérial de Bonaparte, n'est-ce pas, en 1815, vont naître les églises baptistes. Et puis, c'est aussi dans ce contexte-là que va avoir lieu le fameux réveil des vallées des Alpes avec Félix Neff. Nous aurons aussi l'occasion de parler la prochaine fois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur toutes ces choses ? Merci.
Et en gros, le système de la plateforme est encore.
Comment ?
Et en gros, avec le coup d'État, c'est encore le système de la plateforme.
Oui, c'est le système de l'Alsace-Lorraine jusqu'à nos jours. Exactement. Avec des modifications, avec des adaptations. Mmh. Mais fondamentalement, c'est ce régime-là. Oui, oui. Oui, oui. C'est le régime, finalement, qui va perdurer pendant tout le 19e siècle, en France. Ce sera ce régime-là. Il y a plein de concordats, oui. Ah, il y a plein de concordats, mais c'est sûr. La France est un des rares pays qui ait dénoncé les concordats. Mais l'Allemagne, la Hollande, non, pas la Belgique. Qu'est-ce qu'il y a, la Hollande? Les impôts ecclésiastiques, ils appellent ça. Oui, oui. Oui. Bon, la Suisse a gardé ce système. L'Italie, c'est plus trop. Enfin, l'Espagne franquiste était sous ce régime-là aussi, bien entendu. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais l'Autriche, bien sûr, oui, l'Autriche, évidemment. Oui.
Est-ce que c'est la France qui a fait ce système de concordat qui s'est étendu après à d'autres, ou d'autres avaient...
Oui, absolument, absolument. Les guerres napoléoniennes ont étendu ce système à quasiment toute l'Europe. Et alors finalement, il y a eu ensuite alors ce conflit qu'on aura l'occasion de parler entre Napoléon et le pape. Le pape ne voulait pas accepter justement ces concordats au niveau de l'Europe, parce que justement le concordat prévoyait aussi que les pouvoirs publics avaient leur mot à dire dans la nomination des évêques. Et ça a toujours été un truc que le Vatican n'a jamais pu accepter. C'était le conflit déjà qui remonte à Henri IV, à Canossa, c'était déjà le problème, les conflits entre le pape et l'empereur à l'époque du Saint-Empire romain germanique, et qui ont rejailli à l'époque de Louis XIV avec la querelle gallicane. Hein, c'était ça. Et puis, finalement, Napoléon, le pape ne voulait absolument rien entendre. Napoléon, il a passé par quatre chemins. Il a fait prisonnier le pape. Il l'a emmené à Paris, prisonnier à Paris. Hein. Et alors, ça a été une erreur énorme de Napoléon, finalement, que de s'en prendre ainsi au pape. Parce que le prestige du pape était au plus bas. Il n'y a pas du moment où le pape s'est retrouvé prisonnier de Napoléon. Et avec un pape qui était un homme de fer, qui ne pliait pas, même en prison, il refusait de passer par les fourches caudines napoléoniennes, il est apparu aux yeux de tous les catholiques d'Europe comme un martyr. Et ça a été le début du renouveau catholique. Finalement, involontairement, Napoléon a contribué au renouveau catholique, et notamment au niveau du prestige de la papauté, à partir du moment où il a fait du pape un martyr. Ben oui, à cause de la reconnaissance qu'il a donnée et il a établi ça dans tous les pays d'Europe qu'il a conquis, ça c'est sûr. C'est sûr.